Jérôme Fourquet est le directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Et si Valérie Giscard d'Estaing regardait la France au fond des yeux, Jérôme Fourquet l'ausculte sur toutes les coutures. Et quand je dis ça, c'est la France décousue, mais c'est aussi la France couturée. Son dernier livre, La France d'après, tableau politique, conclut une trilogie commencée avec l'archipel français, une nation multiple et divisée, puis un deuxième titre, un deuxième ouvrage, La France sous nos yeux. Sur ce nouveau paysage, les nouveaux modes de vie avec Jean-Laurent Casselli et ce livre qui paraît aujourd'hui, qui en est la déclinaison politique, cette France d'après, ces métamorphoses que vous connaissez, que vous avez sous les yeux, qu'est-ce qu'elles disent ? Eh bien, c'est ce que va nous expliquer, va nous montrer Jérôme Fourquet. Ensuite, nous aurons le temps des échanges.
Merci beaucoup, Madame la Préfète, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je vais regarder si ça fonctionne.
Ça marche.
Ouais. Dans le délai imparti, je vais essayer. Bon. Je vais essayer de vous présenter ce qu'on a appelé les métamorphoses françaises, c'est-à-dire les grandes transformations auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières décennies. Des mutations de nature très différentes que vous avez pu observer, dont vous avez été parfois acteur. Et ce qu'on va vous proposer ce matin, c'est d'essayer de faire un pas de côté, un peu de recul, pour revisiter un petit peu ces 30 ou 40 dernières années. Alors, je ne sais pas si on peut passer... Voilà. Ou alors je vous demande de passer la slide peut-être sur la slide. Donc on verra successivement deux grandes parties. Tout d'abord, quelque chose d'absolument structurant, c'est le changement de notre modèle économique, ou comment nous sommes passés d'une économie qui était encore organisée autour de la production, l'industrie et l'agriculture, jusqu'aux années 80-90, à une économie qui aujourd'hui tourne principalement autour de la consommation, du tourisme, du service à la personne et de la logistique. Et tout ça, bien évidemment, a des conséquences en cascade, à la fois sur les classes sociales, c'est-à-dire les métiers qui sont proposés, mais également sur l'aménagement du territoire, nos paysages et nos imaginaires. Et puis, on reviendra dans un deuxième temps sur ce qu'on appelait la démoyennisation et qui s'intéressera un peu plus spécifiquement au sort de la grande classe moyenne, hein, qui est le fondement, le socle de la démocratie dans un pays comme la nôtre, comme le nôtre. Alors, donc sans plus attendre ce premier chapitre, ce basculement d'un modèle économique à un autre, comme vous vous en doutez, il ne s'est pas fait d'un claquement de doigts et on ne peut pas dater au carbone 14 une date pivot qui aurait fait basculer la France dans un modèle après un autre. Néanmoins, si on devait retenir une période un peu emblématique qui viendrait symboliser tout ça, on pourrait retenir la période du printemps 1992. Donc c'était il y a 31 ans maintenant, et je m'excuse devant vous, élus du Lot, l'exemple sera francilien, mais je pense qu'il vous parlera. Le 31 mars 1992, c'était la fermeture définitive de l'usine Renault-Billancourt, la grande citadelle ouvrière, la grande forteresse syndicale qui avait marqué notre histoire économique, sociale et politique avec les grandes grèves de 1936, de 1968, etc. En mars 1992, il y avait encore 4000 salariés qui travaillaient sur l'île Seguin, à Billancourt, pour fabriquer des Super 5 qui ensuite ont été se faire construire en Yougoslavie. Si vous allez aujourd'hui sur l'île Seguin, aux portes de Paris, il reste uniquement de cette grande histoire une trace, c'est celle du pont qui reliait l'île au reste de l'agglomération parisienne, également un Porsche. On a tout démonté, on a créé à la place une cité de la musique, il y a une grande friche, et l'usine était concentrée essentiellement sur cette île Seguin, mais il y avait également des dépendances, d'autres ateliers qui lui faisaient face de part et d'autre sur la Seine, et il y a un de ces ateliers qui a été remodelé complètement de fond en comble, donc on a gardé son nom, il s'appelle M70, pour Métal 70, puisque c'était l'atelier numéro 70 de métalliers de Renault. Sauf qu'on a gardé uniquement l'architecture industrielle et que c'est aujourd'hui, donc les grandes poutres métalliques, tout le reste a été refait. Et c'est aujourd'hui BNP Real Estate qui en a fait son QG. Donc vous voyez comment les choses ont pivoté. Ça, c'était le 31 mars 92. Le 12 avril 92, donc moins de deux semaines plus tard, à l'autre extrémité de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne, inauguration aux grandes pompes de ce qu'on appelait à l'époque Euro Disney, qui se rappellera Disneyland Paris. Et donc en 15 jours, on est passé de Billancourt à Mickey. Disney, aujourd'hui, c'est 16 000 salariés. C'est le premier employeur monosite de France. On le sait dans votre région, beaucoup de gens travaillent pour Airbus à Toulouse, mais dans des sites éclatés. Sur un seul site, c'est Disney qui, aujourd'hui en France, emploie le plus de personnes. Il faut au moins ces 16 000 salariés pour accueillir 16 millions de visiteurs par an. 16 millions de visiteurs. C'est la principale destination touristique d'Europe. Et Disney, à lui seul, représente 7% de la filière touristique française. Toute cette partie de l'Île-de-France a été complètement remodelée de fond en comble, puisqu'on a fait arriver le RER, le TGV, l'autoroute. On a confié à Disney également des réserves foncières importantes. On n'est pas tellement dans le ZAN, là. Mickey urbanise ça avec un goût très particulier de l'urbanisme. Quand vous allez vous promener là-bas, c'est assez bizarre. Disney n'a pas modifié uniquement nos paysages franciliens. Il a modifié également nos imaginaires. Quand l'Institut de sondage IFOP, dans lequel je travaille, interroge les Français, notamment les jeunes Français, les 18-35 ans, au niveau national, donc c'est des générations qui sont nées après l'ouverture ou au moment de l'ouverture de Disney, 75% d'entre eux, au niveau national, de ces 18-35 ans, nous disent qu'ils sont allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. Et donc vous vous souvenez que lors de la dernière élection présidentielle, certains candidats, je vous laisserai mettre les noms vous-même, nous ont beaucoup parlé d'identité nationale. Donc on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une identité nationale, comment elle se transmet, comment elle se construit, comment elle se nourrit, comment elle s'incarne. Et si on voulait être un peu taquin, on pourrait dire qu'aujourd'hui, un élément d'identité nationale, c'est d'avoir une fois dans sa vie accompli le pèlerinage chez Disney. Si vous l'avez fait, on va tamponner votre passeport. Bon français, vous êtes passé chez Disney au moins une fois. Alors je referme la parenthèse enchantée de Disney pour revenir à la partie plus sombre de l'équation du passage d'un modèle économique à un autre. Cette partie plus sombre de l'équation, un nom, ça s'appelle la désindustrialisation. Si je faisais un sondage sauvage ici auprès de vous, je vous demandais spontanément à quoi vous pensez quand on parle de désindustrialisation. Je pense qu'on évoquerait le charbonnage ou le textile dans le Nord-Pas-de-Calais, la sidérurgie en Lorraine, les chantiers navals sur nos côtes, et vous auriez raison. Sauf que tout ça nous ramènerait aux années 70 et nous laisserait à penser que l'essentiel du sale boulot, de la casse, a lieu à cette époque-là. Or, si on reste dans la métaphore de la métallurgique, la désindustrialisation, c'est en fait un process de coulée en continu qui ne s'est jamais interrompu depuis. Si vous regardez la période qui nous sépare de 2008, donc la dernière grande crise économique que nous avons connue, entre 2008 et 2020, la France a perdu la bagatelle de 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Vous voyez que toutes les régions sont touchées. Certains départements ont échappé à la saignée, mais quasiment toutes les régions ont été frappées. Une des très nombreuses qualités de l'industrie, c'était que contrairement à Billancourt, souvent ces usines étaient implantées ou sont implantées. Et on en a des bons exemples ici dans votre département avec Andros ou le pôle aéronautique à Figeac. Beaucoup de ces usines étaient ou sont implantées dans la France des préfectures et des sous-préfectures. Un grand géographe français qui s'appelait Armand Frémont, qui a travaillé sur cette France industrielle, nous disait que ces villes industrielles, elles étaient toutes construites symboliquement autour d'un triangle. La première pointe du triangle, c'est où c'était l'usine, le lieu de production. La deuxième pointe du triangle, c'était la cité ouvrière, qui avait été construite par la direction de l'usine pour loger les ouvriers. Les méchantes langues rajoutant accessoirement aussi pour contrôler ce qui s'y passait. Et puis la troisième pointe du triangle, c'était le stade. Le foot au nord, le rugby au sud. Vous allez à Sochaux, dans le berceau de Peugeot, pendant très longtemps, le stade de foot s'est appelé le stade de la Forge. Il avait été créé sur l'emplacement de l'ancienne Forge. Si on descend un peu au sud, Clermont-Ferrand, chez Michelin, le stade de rugby est au pied des usines Michelin. Et puis si on va un peu plus loin en Bourgogne, petite ville comme Guignon, qui a eu pendant longtemps un club de foot qui faisait parler de lui, eh bien le surnom des membres du club et de ses supporters, c'était les Forgerons, puisqu'ils étaient intimement liés à l'histoire métallurgique de cette ville. Et donc vous voyez bien que quand une usine ferme dans ce type de territoire, ce n'est pas uniquement les emplois directs et indirects qui disparaissent, mais c'est tout un monde qui s'effondre. C'est une identité, c'est une fierté, c'est des traditions, on y travaillait de père en fils, etc. etc. Et dans ce vide qui est laissé béant par la fermeture des usines, eh bien, on se tire un peu la bourre désormais entre l'hôpital public et la grande surface du coin pour savoir qui a le statut de premier employeur local une fois que l'usine a fermé ses portes. Donc vous voyez le drame qu'a constitué cette désindustrialisation. Alors, pour ne pas désespérer complètement Billancourt, il faut néanmoins mentionner que depuis 2016, si on fait la balance entre les fermetures de sites industriels et les ouvertures de sites industriels, nous sommes repassés en positif. C'est assez timide, mais nous recommençons à reconstituer de l'emploi industriel. Et vous avez, dans un département comme les vôtres, comme le vôtre, des exemples très vivants de tissus industriels qui ont su résister, s'adapter, se transformer. Donc j'ai cité ces entreprises et qui continuent d'irriguer ces territoires. Néanmoins, on part de très loin et quand on compare le poids de notre industrie dans notre produit intérieur brut, on est très en retard par rapport aux Allemands, on le sait, mais on est aussi en dessous de ce qui s'observe en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie. La crise Covid est passée par là et sans doute qu'il y a eu un réveil assez brutal qui a fait prendre conscience à beaucoup qu'il était nécessaire qu'on réindustrialise. Ça a été notamment le cas quand les Français ont constaté effarés qu'il n'y avait plus un gramme de paracétamol qui était fabriqué en France et qu'il y avait au début de la crise Covid 4 sites uniquement qui étaient capables de produire des masques. Et donc là, tout ça a fait réfléchir et petit à petit ça chemine. Maintenant, et vous êtes élu, souhaiter réindustrialiser, c'est une chose. Encore faut-il qu'il y ait des porteurs de projets. Et ensuite, encore faut-il que vous ayez un environnement réglementaire et normatif qui permette la concrétisation de ces projets. Les élus qui ont pris la parole précédemment ont bien insisté sur cette question des normes et des réglementations. Le deuxième pilier de notre économie productive historique, c'était l'agriculture. Là aussi, on peut se dire, l'histoire de la baisse des effectifs agricoles ne commence pas dans les années 80-90, et vous avez raison. Néanmoins, quand on regarde les chiffres, ils sont assez têtus, comme disait Lénine. En 88, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 34 ans, la France comptait 1 million d'exploitations agricoles professionnelles. Ça veut dire que dans beaucoup de vos villages, les agriculteurs et leurs familles étaient encore 30 à 35% de la population locale. Comme on dit à la bourse, ils étaient déjà plus majoritaires, mais ils étaient la minorité de blocage. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Ils étaient là depuis longtemps. Ils étaient enracinés. Et comme par hasard, c'était souvent un des leurs qui était le maire de la commune. 35 ans plus tard, on compte aujourd'hui 380 000 exploitations agricoles professionnelles. Donc on a perdu 2/3 de l'effectif en une génération, ce qui est colossal. Et c'est le plus grand plan social, sectoriel, silencieux de l'histoire de France contemporaine. Ça s'est fait souvent de manière moins douloureuse que dans l'industrie, parce que c'est généralement à l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant que la ferme a été cédée. Ça ne se voit pas forcément dans nos paysages quand on sillonne la France, dans la mesure où les quelques agriculteurs qui restent ont repris tout ou partie des terres qui étaient exploitées jadis par leurs collègues qui sont partis à la retraite. Mais ça a des conséquences économiques majeures. Sur toute une série de productions, nous sommes aujourd'hui importateurs. Et puis ça a des conséquences sociologiques. Dans bon nombre de vos villages, aujourd'hui, il reste 1, 2, 3, 4 exploitations. Je profite pour faire référence aux travaux du grand économiste Fourastier, qui était très attaché à votre département et qui avait noté déjà dans les années 70 la métamorphose du petit village de Douelle. Il montrait comment, entre la sortie de la guerre et les années 70, on était passé de mémoire de 200 exploitations agricoles à 40. Et aujourd'hui, on a connu sur la saison 2, si vous voulez, donc des années 80 à nos jours, eh bien une métamorphose d'une ampleur quasiment aussi importante, puisque aujourd'hui, les exploitations se comptent sur une petite poignée d'exploitations sur cette commune. Donc, néanmoins, notre modèle économique et notre économie a fait preuve de résilience et de capacité d'adaptation face à l'affaiblissement de ces deux piliers productifs historiques. On a d'autres secteurs qui ont pris le relais et qui se sont très puissamment développés et qui ont accompagné le basculement vers un nouveau modèle économique organisé autour de la consommation. Le secteur qui a joué un rôle central dans tout cela, bien évidemment, c'est celui de la grande distribution. Là encore, l'histoire ne s'écrit pas à partir des années 80-90. La saga de la famille Leclerc, le papa de celui que vous voyez matin, midi et soir sur vos écrans, commence dès les années 50 dans la petite ville de Landerneau en Bretagne. Sauf que pour lui, comme ses concurrents, c'est à partir, encore une fois, de ces années 80-90 qu'ils vont appuyer sur l'accélérateur en termes de développement et de déploiement sur le territoire. Alors j'ai pris l'exemple d'un milieu de tableau, on n'a pas pris les leaders, on a pris Intermarché. Intermarché, en 1980, ils ont 310 magasins en France. 10 ans plus tard, ils en ont 1385. Donc je vous laisse faire rapidement la division dans votre tête. C'est un rythme de 2 inaugurations par semaine pendant 10 ans. 2 inaugurations par semaine pendant 10 ans. Donc vous voyez l'assistante ou l'assistant du grand patron qui va acheter une boîte de punaises de couleur neuve tous les mois pour mettre des nouvelles aiguilles sur la carte de France qui montre le déploiement de l'Empire. Ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. On a rajouté 500 unités depuis 90 et il y a aujourd'hui 1832 magasins Intermarché en France. Si vous allez sur leur site internet, ils revendiquent un magasin tous les 14 kilomètres en moyenne. Et donc eux et leurs concurrents, en l'espace de 30 ou 40 ans, ont transformé la France en une gigantesque zone de chalandise, en donnant naissance à un élément paysager que le monde entier nous envie, qui s'appelle la zone commerciale de périphérie, que chaque chef-lieu de canton qui se respecte se doit d'avoir en entrée nord, sud, est et ouest. Le navire amiral de la zone commerciale de périphérie, c'est bien évidemment le super ou l'hyper, mais très rapidement, tout le reste a suivi. Les magasins de franchise, équipement de la maison, équipement sportif, équipement auto, etc., etc., puis les activités récréatives, la restauration, le laser game, le bowling, j'en passe et des meilleurs. Alors, on a des territoires comme ici ou dans le Grand Cahors où on a eu une certaine vigilance et une clairvoyance et on a su maintenir une activité commerçante et commerciale et une activité tout court dans le centre-ville. Mais ça n'a pas été, loin s'en faut, la règle qui s'est observée partout sur le territoire. Ces zones commerciales de périphérie, pour nos décideurs parisiens, bon, ça évoque pas forcément grand-chose, sauf que c'est encore là que se fait 70% de l'activité commerciale. C'est là également que des millions de gens travaillent, des millions de gens consomment. C'est là aussi où certains se sont fait entendre, un certain mois de novembre 2018, quand ils ont revêtu leur gilet jaune. Ils ne se sont pas donné rendez-vous place de la préfecture ou avenue du Général de Gaulle, mais sur le rond-point de Descartes ou le parking de McDo. C'est là que ça s'est passé. Parce qu'ils savaient, ils y travaillent, que ces zones commerciales de périphérie sont aujourd'hui le cœur battant de la société française contemporaine. C'est là que beaucoup de choses se nouent, c'est là que beaucoup de choses se passent. Donc j'y ai dit, on y travaille, on va s'y divertir. Vous voyez, les multiplexes de cinéma. On a l'impression que c'est immuable, mais il n'y en avait que deux en 1993, il y en a 230 aujourd'hui. Et donc ils sont sur une même logique que la grande surface, on y va en voiture, il y a 10 salles, et donc il faut du foncier disponible, donc des parkings, et donc c'est en périphérie qu'on a installé tout ça. Ça, c'était la saison 1 du passage à la société de consommation organisée par l'hyper ou le supermarché. On est maintenant en saison 2 avec le développement du e-commerce, où là, on va livrer le consommateur jusque chez lui. Alors, je vous ai fait figurer ici l'évolution du chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière du e-commerce en France. On a parlé du déploiement de la fibre, et donc Il y a des aspects tout à fait positifs qui font que certaines PME, typiquement dans un département comme les vôtres, grâce au e-commerce, maintenant peuvent toucher des clients qu'elles n'auraient jamais eu par le passé, sortir de leur zone de chalandise géographique. Mais les chiffres sont spectaculaires, hein, puisqu'on est passé de 8 milliards de chiffres à 129 milliards en une quinzaine d'années seulement. Donc ça vous montre encore le poids de la consommation dans notre modèle économique. Et ça nous permet d'aborder un deuxième secteur qui s'est considérablement renforcé, un deuxième secteur économique, qui est lié très fortement à celui-là. C'est le secteur de la logistique. Puisque pour approvisionner les points de vente et maintenant pour livrer le consommateur jusqu'à chez lui, il a fallu que ce secteur de la logistique se développe et se muscle considérablement. Si on poursuit notre enquête paysagère, on va trouver la trace de cette économie de la logistique dans le rond-point après le supermarché, en général en direction de l'autoroute. Vous allez immanquablement tomber sur la grande boîte à chaussures métallique, dans le jargon des aménageurs, un EPL, entrepôt et plateforme logistique, en on compte 4500 de plus de 5000 m² en France. Donc ce qu'on a appelé, nous, dans le livre, la France Amazon, donnant naissance à des nouveaux métiers, les caristes, les préparateurs de commandes, qui ont comme uniforme le gilet jaune. Le gilet jaune a remplacé le bleu de travail, l'entrepôt a remplacé l'usine. Mais cette économie industrielle, elle est irriguée par le rail. Vous vous souvenez que dans pas mal d'endroits, on avait un embranchement de la voie de chemin de fer qui allait jusque dans le cœur de l'usine pour y apporter les marchandises ou sortir les produits finis. Aujourd'hui, dans cette économie de la consommation, le système vasculaire, c'est plus le rail, c'est le bitume, c'est la route. Et le camion a remplacé la locomotive. Et les chauffeurs routiers ont remplacé les cheminots. Ils ne sont pas syndiqués de la même manière, ils ne votent pas de la même manière, ils n'ont pas la même culture professionnelle. On compte en France 400 000 chauffeurs, chauffeurs-livreurs, chauffeurs-routiers. Donc dans cette France d'après, il y a plus de chauffeurs que d'agriculteurs. Donc ça montre les grands éléments de bascule. Autre secteur qui s'est puissamment développé, donc grande distribution, logistique, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie touristique et récréative. Et donc on est dans un département béni des dieux. Vous avez un patrimoine tout à fait exceptionnel, une météo de plus en plus clémente, et il y a parfois des avantages au réchauffement climatique. Et donc on sait ce que c'est dans le Lot que cette économie touristique. On parlait hier soir avec les responsables du Grand Cahors, c'est 1 200 000 nuitées sur l'agglomération de Cahors sur une année. Et donc c'est une manne tout à fait substantielle. Mais cette économie touristique, et donc on voit des communes connues nationalement comme Saint-Cyr-la-Popie, etc., etc., qui sont de véritables aimants touristiques et qui contribuent à redessiner la carte de nos territoires. Vous savez, pour l'anecdote, que jusqu'à 30 ou 40 ans, dans les programmes d'histoire géo, dans les classes primaires ou du collège, dans l'économie de la France, on faisait apprendre aux élèves la carte des vieux bassins industriels. Bon, tout ça aujourd'hui est un peu passé de mode. Et maintenant, vous pouvez vérifier, on a la carte des sites touristiques. Parce que les gens qui font les programmes ont bien conscience que c'est devenu absolument central dans notre modèle économique. Donc je vais vous emmener dans un autre département que le vôtre, qui a été rendu célèbre par une chanson dans les années 70, qui s'appelle le Loir-et-Cher. Et ce département du Loir-et-Cher a eu pendant très longtemps une vitrine touristique majeure, héritée de notre longue histoire, qui s'appelle le Château de Chambord. Mais depuis quelques années, ils ont une deuxième locomotive touristique qui est encore plus puissante que Chambord, qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et là, pour le coup, on peut observer quand est-ce que la couronne a changé de tête. Donc vous avez en bleu le nombre de visiteurs annuels à Beauval, Zooparc, et en rouge à Chambord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 2012, le gouvernement chinois, dans sa grande mansuétude, prête à la France un couple de pandas géants. Les Chinois ne font que prêter. Ils prêtent un couple de pandas géants. Et donc c'est Beauval qui se débrouille pour récupérer les pandas. Il fait presque aussi beau que chez vous. Les pandas s'acclimatent parfaitement, donnent naissance à deux bébés pandas. Brigitte Macron est la marraine. On raconte tout ça dans une série télévisée, une saison au zoo. Et miracle, nous franchissons le million de visiteurs à Beauval. On a atteint 1 550 000 visiteurs en 2018 et ils vont dépasser les 2 millions cette année. 2 millions de visiteurs à Beauval. Les parents pandas sont repartis en Chine, mais il y a le droit du sol qui s'applique, donc les bébés sont restés et sont chez nous. Donc 2 millions de visiteurs, une entreprise totalement privée, 850 salariés en vitesse de croisière, 2000 l'été avec les saisonniers, ce qui fait de Beauval le premier employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher, depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes en 2003. Donc on retombe sur la question de la désindustrialisation. Dans un rayon de 30 à 40 km autour de Beauval, donc la commune s'appelle Saint-Aignan, c'est une toute petite commune, toute l'infrastructure d'hébergement, Airbnb, hôtels, campings, gîtes, tout ne tourne que pour et par Beauval. On réfléchit du côté des décideurs locaux à l'opportunité de créer une sortie d'autoroute dédié à Beauval pour que la clientèle qui descende du nord de la France et de la région parisienne accède plus facilement aux zooparcs. Et donc vous voyez comment ces équipements privés ou publics aujourd'hui reconfigurent complètement nos territoires. Si on se penche sur le graphique un instant, vous voyez également que la concurrence a parfois du bon, puisque la courbe rouge s'est mise elle aussi à augmenter ces dernières années. On a passé le million de visiteurs à Chambord. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Nos touristes qui viennent d'autres régions que le Loir-et-Cher rendent visite aux pandas avec leurs enfants, ils vont donc du coup dans le Loir-et-Cher pendant un week-end. Donc le samedi, on va voir les pandas, et avant de repartir, le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se rencarde un petit peu sur Internet, on tapote, puis on se dit, tiens, il y a un truc qui paraît qui est pas mal, qui s'appelle le château de Chambord, peut-être que ça vaut d'aller, le coup d'aller. Et quelque part, Chambord est dans la roue des pandas, et donc est tiré par... ce magnifique ours en peluche. Et donc, si plus sérieusement, si vous êtes le président du conseil départemental du 41 ou le directeur de l'office du tourisme de ce beau département, il faut vous soucier comme de la prunelle de vos yeux de l'état de santé des pandas, parce qu'ils sont devenus la poule aux œufs d'or de votre département. Hein, et donc, vous voyez le poids de cette économie touristico-récréative dans notre nouveau modèle économique. Dernier point là-dessus. Autre secteur, tout ce qui tourne autour de l'immobilier, soit résidentiel, soit touristique, les deux étant de plus en plus liés depuis le développement du télétravail. Et donc, je ne me prononcerai pas devant vous ce matin pour savoir s'il y a encore une lutte des classes ou pas en France. En revanche, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une lutte des places. C'est-à-dire qu'il y a une gigantesque compétition permanente qui est menée par chacun d'entre nous pour pouvoir se loger, aller en vacances dans les endroits les plus désirables du territoire national, ce qu'on a appelé dans le livre la France triple A, la France instagrammable, celle qui fait rêver. Et puis, tout en bas de l'échelle de désirabilité, vous avez la France de l'ombre, d'aucuns diraient la France moche, celle qui n'intéresse personne, qui ne fait pas rêver grand monde, et entre les deux, vous avez une trentaine ou une quarantaine d'échelons. Chacun, c'est bien normal, aspire à accrocher le barreau le plus élevé. Mais quand vous prospectez sur ce barreau-là, vous vous rendez souvent compte que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre et que c'est quand même un peu cher. Hein. Et donc la mort dans l'âme ou la queue entre les jambes, c'est seulement vous redescendez d'un cran et vous allez prospecter un barreau inférieur. D'où, à votre tour, vous allez évincer quelqu'un qui a moins de moyens financiers que vous, qui va se cascader sur l'échelon inférieur, et ainsi de suite. Et donc il y a cette gigantesque bataille qui a lieu au quotidien. Hormis les talents du bonhomme, c'est pas pour rien que, jusqu'à présent, Stéphane Plaza trustait les plateaux télé et nos écrans. C'est parce qu'il parle d'un sujet qui passionne les Français. Leur logement, acheter, vendre, pouvoir accéder à un territoire, etc., etc. Alors, je vous ai fait la carte du champ de bataille. Et en l'occurrence, c'est un géographe qui nous a fait ce travail. Et il est parti du principe que les 35 000 communes françaises ne disposent pas toutes d'un office du tourisme, mais elles ont toutes une page sur Wikipédia. Et donc, il a été aspiré 10 ans de trafic sur Wiki. Alors, ne me demandez pas comment il l'a fait. On a reparamétré tout ça par le nombre d'habitants par commune, en partant du principe que les communes les plus importantes généraient plus de flux. Et donc, on a créé cette hiérarchie de la désirabilité, les communes à clics, et puis celles qui font beaucoup moins de clics. Alors en rose, je vous présente la France triple A, donc c'est les grandes métropoles, les littoraux, la France du Sud et du Sud-Ouest, nos montagnes, et puis à l'inverse, la France de l'ombre, la France, comme on dirait en bon français, backstage, des coulisses, les périphéries de nos métropoles, les zones rétro-littorales, là, il n'y a pas vue sur mer. Les pieds des montagnes, vous voyez le piémont pyrénéen, les vallées, le fond des vallées dans les Alpes, et puis toute la France du Nord-Est, où il y a moins de soleil que chez vous. Et donc c'est ça, aujourd'hui, le terrain d'affrontement ou de concurrence sur cette bataille pour la lutte des places. Alors, historiquement, on avait deux catégories de la population qui pouvaient choisir d'habiter où elles voulaient. C'était les retraités aisés, ou relativement aisés, puisque la pension de retraite tombe à Cahors comme à Vesoul. Et donc, on n'a rien contre Vesoul, mais Cahors, c'est quand même très beau. Et donc, beaucoup s'étaient installés chez vous ou en bord de mer. Et puis, les professions libérales, notamment les professions de santé. Ils ont fait des très longues études et ils ont contracté un virus qui les rend très dépendants de l'eau de mer et du soleil. Et donc, ils sont beaucoup quand même sur nos littoraux. Il n'y a pas de problème de désert médical dans le golfe du Morbihan, à Arcachon, à Saint-Tropez, il y a tout ce qu'il faut. Le Covid est passé par là, avec le surgissement d'une nouvelle pratique dans nos vies, dans les entreprises notamment, c'est la question du télétravail. Alors attention à ne pas exagérer le phénomène, parce que quand vous lisez la presse, je parle sous le contrôle, pas la bonne presse, l'autre presse, vous avez le sentiment parfois que toute la France est en télétravail. Pourquoi ? Parce que les journalistes sont en télétravail et ils pensent souvent que les Français sont à leur image. Donc ils disent, bon, alors tout le monde est passé en télétravail. Donc si vous avez un petit doute, vous allez sur le site de l'IFOP et vous apprendrez que 25% des salariés français télétravaillent 2 jours ou plus par semaine. Donc ça veut dire que 75% ne télétravaillent pas ou quasiment pas. Mais ça fait quand même 25% de gens qui aujourd'hui sont à 2 jours ou plus, ce qui est quand même en volume énorme. En Île-de-France, c'est 40%. Vous avez deux types, je caricature et je vais très vite, deux types de populations qui télétravaillent. On va avoir des employés de bureau dans le tertiaire, et eux, elles, regardent aussi les émissions de Stéphane Plaza et se disent, quand on habite dans les grandes métropoles, à Toulouse par exemple, eh bien, moi, mon objectif, c'est d'avoir la maison avec jardin, le trampoline pour les gamins, le barbecue, peut-être même la piscine si c'est possible. Mais au prix du mètre carré, ça veut dire 40-50 km de Toulouse. Si je dois faire l'aller-retour 5 fois par semaine, à 2 euros le litre de diesel, c'est pas possible. Mais si mon gentil patron m'autorise maintenant à ne venir sur site, comme on dit, que 2 à 3 fois par semaine, alors ça se regarde. Et donc, le développement du télétravail va se traduire, de notre point de vue, par la poursuite de l'étalement urbain. Et donc, on reparlera bientôt du ZAN et son application dans les grandes périphéries. Et puis, à la deuxième catégorie de population, c'est les managers ou les cadres de ceux-là. Alors, eux, quand ils habitent à Toulouse ou Paris, ils réagissent pas en kilomètres. Ils vont réagir en TGV. Et donc, le télétravail leur a permis de réaliser le fantasme ultime qui s'appelle vivre et travailler au pays des vacances. Hein, si vous allez à la gare Montparnasse, le rush aujourd'hui, c'est plus le vendredi midi, c'est le jeudi midi. Tout le monde part en télétravail, enfin tout le monde. Ceux qui peuvent en télétravail sur la côte atlantique. Et le problème, c'est qu'ils ont exactement le même goût immobilier que nos retraités aisés, que nos professions libérales. Donc ils sont venus s'entasser là où il y avait déjà du monde. Et il y a un vieil adage chartois, peut-être qu'on l'observe aussi dans le Lot, qui dit « il pleut toujours où c'est déjà mouillé ». Et donc c'est là que les gens sont venus s'installer. Et donc on nous a parlé de la revanche des villes moyennes en sortie de Covid avec le télétravail. Et hélas, toutes les villes moyennes ne vont pas bénéficier de cette arrivée des télétravailleurs. C'est déjà les villes moyennes qui étaient attractives touristiquement qui vont avoir la capacité d'attirer de nouveau. Là où il y a une bonne nouvelle, c'est que vous êtes plutôt dans le double ou le triple A, selon vos territoires, et que vous êtes plutôt du bon côté de la barrière de ce point de vue des évolutions sociologiques. Donc on me fait signe qu'il faut que j'abrège tout cela. Donc peut-être qu'on parlera dans les questions après de ce qui se passe en termes de consommation et d'impact sur la classe moyenne. En tout cas, merci de votre attention.
Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Ce film en accéléré des métamorphoses de notre territoire et finalement aussi quand même dans ce qui aurait pu être négatif, un peu inquiétant, eh ben, on voit un territoire, un département comme le Lot qui est dans ce triple A ou du moins dans...
Le double ou quoi ?
En tout cas, qui donne des notes d'espoir. On va faire circuler le micro pour que vous puissiez intervenir et poser des questions à Jérôme Fourquet, aussi témoigner de ce que vous vivez par rapport à ce qui nous a été présenté, ce que vous vivez dans vos communes. Mais peut-être, puisque vous évoquiez le télétravail aussi, et vous aviez commencé par les habitudes de consommation, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour des centres-bourgs, puisqu'on ne se contente plus de loger, d'y dormir, mais aussi d'y vivre. Peut-être là aussi, on pourra mesurer des évolutions sur la vie locale demain.
Alors, oui, tout à fait. Et le Covid et le télétravail ont complètement perturbé ou modifié aussi les rythmes de vie et les rythmes de consommation. Et donc, vous parlez avec des commerçants. Ils vous disent, c'est plus forcément le rush le samedi après-midi. On peut avoir du flux, notamment dans les grandes métropoles où le taux de télétravail est important, quasiment toute la semaine. Et donc ça peut être ça aussi une opportunité, c'est-à-dire de lisser un peu l'activité et d'avoir des gens qui organisent leur semaine un peu différemment d'avant et qui donc du coup peuvent fréquenter les centres-villes, les centres-bourgs davantage qu'ils ne l'ont fait. Autre tendance très porteuse, notamment pour un département comme le vôtre, qui s'est renforcé à l'occasion de la crise Covid, qui était déjà en partie présent avant, c'est l'attrait pour toutes les productions locales. Alors le Made in France au niveau national, mais vous voyez que le label produit de nos régions, produit de nos terroirs, a le vent en poupe. Et donc dans un monde qui bouge énormément, il y a une appétence pour ceux qui ont les moyens, mais c'est une part non négligeable de la population, de consommer local, d'être, alors, soit pour des motifs écologiques, soit un peu de patriotisme de clocher en disant c'est bien que l'argent reste là. Et donc ça aussi, c'est des transformations de fond qui sont quand même plutôt porteuses et intéressantes.
Le premier livre de la trilogie, c'était L'archipel français. On voit aussi en même temps un pays qui est éclaté. Vous évoquez à l'instant des productions locales, mais on voit aussi des gens qui font des arbitrages, qui se débrouillent, une société de plus en plus éclatée par rapport à des pouvoirs d'achat, par rapport à des habitudes de vie.
Oui, alors c'est le point que je... Merci de me poser la question. On a vu le poids de la grande distribution, et ça veut dire aussi le rôle central aujourd'hui de la consommation dans la vie des Français. Vous vous souvenez peut-être que quelques mois avant la crise des Gilets jaunes, on avait assisté à ce que d'aucuns avaient appelé les émeutes du Nutella. Intermarché, encore eux, avait lancé la grosse promo, moins 75% sur le pot de 850 grammes. Messieurs, dames, ça ne se refuse pas. Et Intermarché savait pertinemment ce qu'il faisait, c'était le vin du mois. Toute la France des ronds-points, comme elle le dit avec ses mots, le vin du mois ne peut plus se payer de la marque. Et donc là, c'était l'occasion rêvée de faire plaisir aux enfants. Donc, rush chez Intermarché, on s'est battu dans les rayons, on a contingenté le nombre de pots, etc. etc. Nos sociologues universitaires, qui n'ont jamais de hier idéologique, on était en 2018, nous ont dit « Ah là, c'est les prémices des émeutes de la faim ». Nous, à l'IFOP, on a dit « Bon, on se calme, hein, c'est de la pâte à tartiner, etc. » Mais, blague à part, voyez le poids tout à fait central qu'ont acquis aujourd'hui certaines marques dans l'imaginaire collectif.
Vous avez une formule, d'ailleurs, qui est extraordinaire.
Et donc, on a un grand penseur français, Jacques Attali, qui a dit... Séguéla.
Non, c'est Séguéla, Jacques Séguéla.
Mais bon. Qui a dit, si à 50 ans, t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. La France des ronds-points, elle dit, si à 40 ans, tu peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes mômes, t'es un cassos. La place que j'occupe dans la société est conditionnée par l'enseigne que je fréquente et les marques que je peux m'offrir. Vous voyez dans ce contexte-là que le politique, le gouvernement, surveille comme le lait sur le feu la question du pouvoir d'achat. Il y a une dimension traditionnelle, c'est juste et c'est déjà énorme, permettre aux gens de vivre et de faire vivre leur famille. Mais il y a une dimension symbolique et politique qui est immense. Dans une société de consommation, on a parlé de la République, mais il y a aussi cette société de consommation, le citoyen est consommateur, et un de ses premiers droits ou pouvoirs, c'est celui de consommer. Pouvoir d'achat, c'est pouvoir acheter. Si je suis freiné, bridé dans mon pouvoir souverain d'acheter, alors je ne suis plus véritablement un citoyen de première catégorie. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui aussi dans tout cela. Jusqu'à présent, avant le Covid et le retour de l'inflation, nous avions observé qu'on avait le bas de la classe moyenne qui était en voie de décrochage relatif. Ce n'était pas un appauvrissement réel, c'était relatif. On n'arrivait plus à accrocher les wagons de la société de consommation qui courait toujours plus vite. Et donc on avait développé une économie de débrouille. Achats sur les plateformes, les foires à tout et les vides greniers dans vos communes, etc., etc., Le Bon Coin, j'en passe, et des meilleurs, le Hard Discount. Sauf que depuis lors, cette frange qui était en décrochage relatif, eh bien, sa strate la plus fragilisée a été percutée de plein fouet par le retour de l'inflation, notamment sur les produits alimentaires. Sur 2 ans, c'est plus 25% les produits alimentaires. Et donc là, c'est un sondeur qui vous parle. Méfiez-vous des moyennes. Quand on dit, pendant le Covid, les Français ont mis 100 milliards d'euros de côté. C'est vrai, mais ce n'est pas tous les Français. C'est les 3 premiers déciles de revenus. SNCF nous dit, cet été, on a vendu 24 millions de billets. Donc, le TGV a fonctionné à fond la caisse et beaucoup de gens sont venus rendre visite à votre belle région. Mais on a aussi toute une partie de la population qui était déjà en bricole et en arbitrage et en débrouille et qui l'a pris le coup de grâce et qui est en décrochage objectif aujourd'hui. La grande distribution, qui a des formidables capteurs, nous dit que c'est la première fois depuis 1945 que nous assistons à une baisse de la consommation alimentaire en volume, pas en prix, mais en volume en France. Et une enquête récente de l'IFOP, qui a été réalisée auprès de la France qui gagne le SMIC ou en dessous, donc petits retraités, temps partiel, minima sociaux, nous montre que 50% de cette population-là a réduit les portions conservées à table à la maison. Et vous êtes maire. Et je pense que tout ça vous parle sur ce qui se passe dans les cantines, sur le tarif des cantines, sur comment on assure aux enfants de ces familles au moins un repas équilibré par jour. Et donc attention, on a toute une France triple A qui traverse sans aucun dommage, gagnante ou qui traverse sans aucun dommage cette crise. Et on a des franges importantes qui aujourd'hui sont en décrochage non plus relatif mais objectif.
Alors, on va prendre des interventions. Ah ben voilà, au milieu, les micros sont sur le côté, mais il arrive jusqu'à vous. Il est déjà là. Et vous faites signe si vous souhaitez ensuite prendre la parole, comme ça on gagnera un peu de temps. En vous présentant, s'il vous plaît.
Oui, merci. Bernard Delpech, je suis conseiller municipal de Cahors. Monsieur Fourquet, je vous remercie pour votre présentation et surtout vos images et vos métaphores à côté. Vous avez axé votre travail sur, il me semble, les déclassements territoriaux et déclassements sociaux ou des classes sociales tout à l'heure dans le deuxième temps. Vous avez mis l'accent sur la concurrence et la compétition. Vous avez aussi cité Sartre. On ne peut pas désespérer Billancourt, mais Billancourt est derrière nous. Et je voulais savoir comment on pouvait aborder la question de l'attractivité de notre territoire, le Lot, par exemple. La carte qui est à l'écran met en avant les liens entre les métropoles, Paris, les métropoles d'équilibre, l'autoroute, le TGV, et je pense au Lot, quand nos collectivités doivent payer pour la nouvelle LGV jusqu'à Toulouse, alors que cette ligne contourne Cahors et le Lot, finalement. Comment on fait pour entrer dans le triple A, et comment, ma dernière question aussi, comment concilier la diminution du travail, de l'emploi industriel et agricole, et comment on fait pour concilier consommation et emploi, finalement, et travail.
Alors, on commence. Merci. Par la question des flux.
Oui, alors, comme je vous l'ai dit, dans cette nouvelle donne économique, le poids du secteur touristique et récréatif est aujourd'hui absolument central. Et donc, vous avez un positionnement géographique qui vous met à l'écart des flux LGV, mais Toulouse n'est toujours pas desservie non plus. Mais dans cette nouvelle donne économique, vous avez quand même un patrimoine, un territoire qui est hautement valorisé. Et donc, vous allez me dire, vous êtes gentil, mais comparez-vous, par exemple, à des départements de l'Est intérieur, on ne va pas citer de nom, qui sont eux aussi à l'écart des LGV, mais qui n'ont pas du tout le même climat, la même image et le même patrimoine que le vôtre. Donc il y a déjà cette donne-là. Autre spécificité de votre département, vous n'êtes pas uniquement un décor de carte postale, vous avez su préserver un tissu industriel diversifié. Et le mot est important, diversifié, parce que parfois, il se trouve que, de par les traditions locales, tout l'emploi industriel est concentré sur une filière. Et ça rend le modèle assez fragile. Vous, il y a une diversification à la fois en termes de filière, mais aussi de zones d'emploi, hein, entre le nord du département, plus sur l'agroalimentaire, et la zone de Figeac, et qui donne qu'il y a quand même des atouts. Et j'ajoute, le président du conseil départemental l'a rappelé, les efforts qui ont été faits sur le déploiement de la fibre. Et donc, ce n'est pas uniquement un gadget. Ça veut dire aussi, pour des PME actuelles ou à venir, des perspectives de développement avec la capacité à les toucher des clientèles qui seraient historiquement pas dans votre zone de chalandise. Je vous prends juste un exemple, alors qui peut paraître un peu décalé, mais vous prenez une grande librairie à Bordeaux, comme la librairie Mola, plus de 50% de son chiffre d'affaires est effectué avec des clients qui ne sont pas de la région Aquitaine. Oui. Et donc c'est des gens qui lisent, ils veulent pas donner leur sous à Amazon. Mais donc, via le déploiement, alors Mola fait tout un travail, ils font des conférences, ils ont mis en ligne des choses sur leur site. Alors c'est une grosse machine, hein, mais ils sont capables aujourd'hui de toucher un public qui est très éloigné de leur base, si je puis dire. Et donc ça peut être aussi le cas de PME locales. Si on prend un exemple qui ressemblerait plus à la situation de votre département, dans le département de l'Allier, on a une PME qui fabrique beaucoup d'objets liés à la pêche et à la chasse, notamment des hameçons, etc., etc. Et donc, ils ont un site internet qui fait que plus de 60% de leur chiffre d'affaires provient de l'extérieur de leur département. Donc, ils envoient dans la France entière, aujourd'hui, via le développement du digital et du numérique. Alors, ça fait du camion, ça fait du carton, certes, mais ça permet aussi de maintenir une activité sur certains territoires.
Et donc on voit des atouts comme ça pour des territoires, mais il faut des porteurs de projets, quoi. C'est ça le
maintenant. Oui, et alors il faut aussi l'environnement normatif qui va bien. Oui. On n'est pas des boulets aux pieds pour le faire. Il faut une entente entre les différents acteurs. Et donc s'il peut y avoir une union sacrée des décideurs locaux, c'est plutôt bien. Et donc, c'est pas parce que je suis devant vous ce matin, mais objectivement, il y a un paquet de départements ruraux qui sont dans des situations bien plus fâcheuses que la vôtre. Et donc, il faut être conscient de vos atouts et d'essayer de capitaliser dessus.
Voilà, c'est à vous. Vous avez le micro. Allez-y.
Oui, bonjour. Donc, Philippe Landrin, élu à Figeac. D'abord, je suis ravi de me retrouver en face de vous, Monsieur Fourquet, parce que vous avez occupé une partie de mes nuits il y a quelques mois en lisant vos deux ouvrages, en tout cas les deux premiers. Et que j'avais trouvé particulièrement intéressant, et j'étais ravi de vous rencontrer. Effectivement, vous avez parlé de franchise, en parlant de Billancourt, de...
L'exemple...
De friche, pardon, voilà, ça n'est pas revenir. Alors, vous avez parlé de friche industrielle, et vous parlez dans la foulée de commerce, et on voit aussi aujourd'hui apparaître un certain nombre de friches commerciales. Et donc, j'aimerais savoir, effectivement, sur ce sujet-là particulièrement, quelles sont aussi, au travers de vos études, quelles sont les perspectives dans le monde du commerce, à la fois sur le centre-ville, mais aussi sur la grande distribution, dont on voit qu'elle fait, effectivement, aujourd'hui, un arrêt sur ses implantations, mais aussi qu'elle commence à avoir des difficultés. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec le groupe géant Casino, qui souffre effectivement de la concurrence à la fois d'Internet, mais aussi des réseaux de hard discount. Et pour nos territoires, ça peut être aussi un élément d'interrogation, parce que est-ce qu'il faut continuer à investir sur ces zones, ou est-ce qu'il faut tout simplement s'arrêter?
Alors, je pense que la messe n'est pas dite, et que tous ceux qui prédisent la fin de la zone commerciale du périphérie et du modèle, alors peut-être de l'hypermarché, mais en tout cas certainement pas du supermarché. Il y a plusieurs options qui sont possibles dans des cas de figure comme ceux que vous décrivez, avec ce qu'on appelle des cellules ou des emplacements qui seraient vides. Soit c'est on reconvertit pour faire autre chose, et donc je parlais de la logistique par exemple, mais on a le ZAN qui va s'appliquer, donc quelque part avoir des friches à un moment, c'est aussi avoir des réserves foncière pour recréer d'autres types d'activités que celles de commerce. Et donc, la zone commerciale peut-être progressivement s'hybrider. Dans certains endroits, on l'a fait muter petit à petit vers quelque chose qui ressemble aussi à un parc de loisirs. C'est-à-dire qu'on va faire ses courses, mais on a aussi des activités récréatives. Ça peut être un modèle. Il faut réfléchir aussi à tout ce qui se passe autour de l'économie circulaire et des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les Français sont assez... frileux sur le développement de nouveaux parcs éoliens. En revanche, dans les enquêtes, ils sont très favorables, sur le papier, au photovoltaïque. Mais ils sont encore dans l'image d'Épinal du photovoltaïque, les panneaux qu'on va mettre sur le toit de la préfecture ou du collège. Sauf que pour avoir les volumes énergétiques dont on aura besoin pour la décarbonation de notre économie, ça va être des hectares et des hectares. Et donc, ce n'est pas forcément du côté des terres agricoles qu'il faudra se tourner. Peut-être que dans des endroits où il y a de la friche historiquement industrielle ou commerciale, ça peut être aussi une perspective. Dernier point, je parlais du désarrimage du bas de la classe moyenne et de cette économie de la débrouille. Tout ça n'a pas échappé à certains acteurs économiques qui ont aujourd'hui le vent en poupe pour s'adresser justement à la partie décrochée de la population sur des offres hyper low cost. Donc on n'est pas trop loin de la vallée de la Garonne, berceau du groupe Gifi. Hein, vous voyez ce que ça donne. Et regardez un concurrent comme Action, hard discounter non alimentaire hollandais. Ils sont arrivés en France en 2012. Ils revendiquaient 700 magasins l'année dernière, en décembre. Donc ils sont sur le même rythme de déploiement que Intermarché dans les années 80-90. Il va falloir du foncier. Alors on peut se dire, nous, c'est pas ça qu'on souhaite pour nos territoires. On veut donner notre image. N'empêche que il y a une partie de votre population qui a besoin de ce type de commerce. Et donc, si certaines enseignes moyenne gamme sont aujourd'hui en difficulté, il peut y avoir une reconversion. Alors, on va dire on est en descente, mais il faut aussi tenir compte de la réalité sociologique du pays. Donc, il y a différentes options possibles pour ces friches commerciales.
Il y a des options et puis il y a des outils. On voit aujourd'hui dans la deuxième étape d'Action Cœur de Ville, voilà, Petite Ville de Demain, ce qui est fait sur les entrées de ville, sur la mixité d'usage aussi. Donc, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que le volontarisme, d'ailleurs, des programmes nationaux influe sur les habitudes de nos concitoyens? C'est une autre question, ça. Mais on va prendre d'autres interventions, s'il y en a. Alors, qui veut le micro? Ça monte en haut de la salle. Allez-y.
Bonjour.
Oui, ça marche tout seul.
Bonjour, André Jevski, maire de Padirac.
Voilà, une pépite touristique.
Une de plus.
Une de plus, nous sommes un peu le Mickey du Lot. Si ce n'est que le Mickey du Lot, il prend de la place. À l'inverse de la population, c'est que le Mickey du Lot, il s'étend et il importe ses procédures. Nous sommes une commune qui compte 170 habitants et qui a un nombre incalculable de procédures sur le dos avec le Mickey local. Pourriez-vous nous parler de ce qu'on appelle le développement durable en matière de tourisme et du tourisme durable, ce que nous, pas dire à quoi, aspirons de tous nos voeux depuis quelques années?
Merci pour votre question et votre témoignage. Donc effectivement, on a essayé de montrer en quoi cette économie touristique était aujourd'hui un secteur très important dans notre société. D'ailleurs, les termes ont leur signification. Vous savez qu'on parle beaucoup d'industrie touristique. C'est pour faire oublier qu'on n'a plus trop d'industrie, mais c'est aussi pour vous montrer la machine qui est devenue ce tourisme. Et comme toutes ces machines, les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, on est aujourd'hui confronté dans des sites comme les vôtres à des problématiques de surtourisme, avec la question du foncier, mais aussi la question de l'aménagement, de la surfréquentation. Je ne parle pas des Airbnb, etc., etc. Et donc, comme toujours, il faut essayer de maîtriser ces développements, avoir des choses qui soient équilibrées. Et encore une fois, un des avantages de votre beau département, c'est que vous n'avez pas un seul site remarquable et que cette manne touristique, on peut la répartir sur des territoires assez variés. On pourrait rajouter aussi, même si vous n'êtes pas complètement sur l'axe principal, regardez ce qui se passe sur le regain d'intérêt des sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, qui génère là aussi des retombées dans bon nombre de territoires. Donc il faut prendre. Mais le surtourisme va nécessairement devoir se réguler. Et encore une fois, là où c'est intéressant pour le Lot, c'est qu'on a plusieurs endroits qui peuvent fonctionner en réseau et attirer chacun des clientèles variées.
Oui, c'est ça, il y a cette segmentation entre le randonneur, et on voit le succès des grandes randonnées, et puis le consommateur de parcs d'attractions.
Voilà, ou de sites naturels remarquables, ou de patrimoine historique, comme vous les alignez avec une grande beauté dans vos paysages.
Allez-y, vous avez le micro.
Bonjour, Denis Marre, maire de Pradines. La délocalisation de notre industrie a été faite il y a des dizaines d'années pour deux raisons essentielles. La première, le coût de la main-d'œuvre sur les pays où elle a délocalisé. On était moins regardant sur le droit social qu'on ne l'était dans notre pays. La deuxième raison, on était moins regardant sur les bilans carbone. Ça n'avait pas le même impact, les transports étaient moins chers. Aujourd'hui, la production, elle se fait de plus en plus avec des robots qui ne nécessitent plus un personnel qui sont des ouvriers, qui font la maintenance des lignes, la maintenance des automates. On est de plus en plus sensible au bilan carbone et si on y rajoute le contexte international tel qu'il est aujourd'hui, on pourrait penser qu'on va relocaliser beaucoup de notre production industrielle. Est-ce qu'on peut penser que ça se produira ou pas ?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on fait la balance entre les ouvertures versus les fermetures de sites industriels, on est repassé en positif en 2016. Tout ça est lié en partie aux événements aux éléments que vous indiquez. On peut quand même aussi penser qu'il y a des éléments de politique publique, la baisse des impôts de production, tout un discours porté sur la sensibilisation à la question industrielle qui avait commencé.
Attention, hein, quand on dit impôts de production, c'est des impôts locaux aussi, hein, la plupart du temps.
Oui, mais est-ce qu'on préfère avoir plus d'usines ou une usine ? Voilà, il faut regarder. Et donc il y a un courant qui est plutôt positif. Après, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Il y a toute une série de productions qui sont parties, qui ne reviendront pas. En revanche, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, soit sur des secteurs stratégiques, je parlais tout à l'heure des médicaments, et on voit qu'il y a des réflexions gouvernementales en la matière, soit sur des nouvelles filières. Parler des renouvelables, regardez ce qui se passe dans certains ports français avec le développement des filières d'éolien en mer, par exemple. Les gigabatteries pour le passage à l'économie, aux voitures électriques. Alors, toujours pareil, on va créer des gigabatteries, mais à la souterraine, dans la Creuse, les sites de fonderie traditionnels qui marchaient pour les moteurs thermiques sont en difficulté. Donc, il y a des éléments qui sont positifs, mais il ne faut pas qu'on se trompe néanmoins, les porteurs de projets, si vous avez 15 000 recours d'associations locales, si vous avez 3 ans d'études, parce qu'il faut, comme disait M. le Président tout à l'heure, passer à la moulinette de toutes les procédures et toutes les commissions, le temps c'est de l'argent, et donc on a une partie des projets qui ne se feront pas. Il y a un exemple qui a un peu marqué les esprits il y a quelques mois, en Bretagne, dans le grand bassin rennais, une entreprise, Bridor, pour ne pas la nommer, pourtant ils avaient le bon visa, puisqu'ils sont bretons, ils sont du coin, envisageait de créer une usine de pain brioché, donc c'est pas le truc le plus polluant de la Terre, et recours sur recours d'associations locales en disant ça va être une ponction sur les nappes phréatiques insupportables. On prête qu'aux riches, hein, dans le bassin rennais, on est à 3% de chômage, donc il n'y a pas de sujet. Et Bridor, entreprise qui a le patriotisme breton chevillé au corps, a décidé d'aller construire son usine au Portugal. Donc le pain brioché remontera, donc on sera très content pour le bilan carbone. Donc attention, même si, comme vous avez raison, dans le paysage global, on a des éléments qui peuvent nous rendre optimistes, les élus ont parlé de lucidité tout à l'heure, il faut aussi affronter nos propres contraintes, nos propres verrous. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites sur les territoires industriels clés en main. En disant, voilà, on a levé toutes les contraintes administratives. Si quelqu'un veut venir, demain, on y va. Et ça, il faut le généraliser. On parlait d'agriculture tout à l'heure. Regardez la durée d'implantation d'un biométhaniseur dans l'univers agricole. C'est 2 fois plus long en France qu'en Allemagne. Ils en ont 3 fois plus que nous.
Bon, sujet voilà. Qui agitait le congrès des maires du Lot il y a 2 ans.
J'ai entendu parler. Voilà. C'est pour ça que Donc, à un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut et mettre aussi la population local devant ses responsabilités en disant soit on touche à rien, on met sous cloche, mais on importe massivement. Donc même pour la planète, y a un petit sujet. Et puis, on n'a pas eu un budget à l'équilibre en France depuis 1973. Et notre déficit commercial présente des déficits, des records à la baisse abyssaux. Donc, à un moment, il faut quand même regarder ces réalités-là en face.
Alors, le temps court et il y a encore des prises de parole. Madame, après, qui souhaite aussi intervenir? Bon, ben, allez-y.
Bénédicte Lanne, maire de Douel. Donc, tout à l'heure, vous avez cité Jean Forestier qui avait pris comme sujet d'étude la commune de Douel. 40 exploitants agricoles en 1980, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Exploitants agricoles, viticulteurs et maraîchers. Aujourd'hui, en 2020, il n'y avait plus que 5 exploitants, essentiellement et uniquement, même je dirais, que de la viticulture, aucun maraîcher. Douel est devenu joli village pour accueillir l'école blanche. C'était une citation du journal Le Monde qui, en 2019, avait rebondi sur l'étude de Jean Forestier. Depuis 2013, avec le conseil départemental, on a lancé une opération pilote pour réinvestir les friches agricoles et installer 2 maraîchers bio. C'est effectif depuis 2020. Je voudrais vous poser une question. Alors, dans le Lot, on est pour le bien manger, le mieux manger, manger local. Est-ce que vous pensez que ça suffira pour relancer l'agriculture? Parce que pour autant, on parle d'industrialisation, mais l'essentiel quand même, c'est de se nourrir et de bien se nourrir.
Merci beaucoup pour votre question. Donc, comme vous l'avez vu, Douel n'est pas un cas isolé. Et donc, on est passé d'un million d'exploitations agricoles en 88 à 380 000 aujourd'hui. Pour compléter le tableau, sur ces 380 000 exploitations, plus de la moitié des exploitants ont plus de 60 ans. Donc, à horizon rapide, il va y avoir un vrai sujet. Et on importe massivement des denrées alimentaires en France, qui pendant longtemps étaient quand même le jardin de l'Europe. Et là, on est sur le secteur agricole face à une révolution vraiment historique, puisque c'était l'agriculture, un des derniers secteurs d'activité où on y travaillait de père en fils, et où il y avait très très peu de gens qui rentraient dans la profession en n'étant pas eux-mêmes issus familialement du sérail. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est la reprise de ce qui nous reste d'exploitation, la création de nouvelles sur d'autres modalités, notamment en circuit court, agriculture bio ou raisonnée, pour parler davantage aux consommateurs, aux jeunes générations. Là où il y a donc un vrai sujet, c'est pas la transmission familiale, c'est comment on attire des gens qui viennent pas du sérail et qui acceptent de faire ce métier-là. Avec attention, parfois des images d'Épinal. Et si beaucoup de gens ont quitté la terre, historiquement, c'est que la terre était basse, hein, quand même. Hein. Et donc, aujourd'hui, revenir, vous avez vu peut-être, il y a peu de temps, une grande polémique dans le journal La Montagne, où il y avait eu tout un dossier qui vantait le retour des chevaux, de traits, etc., et qui fustigeait la mécanisation de l'agriculture. Et donc, il y a une levée de bouclier de toute une partie des lecteurs en disant « mais ne peuvent écrire ça ». Que ceux qui n'ont jamais labouré avec un cheval. Hein. Donc, voilà. Donc, comment on arrive à rendre attractifs ces métiers, notamment ceux du maraîchage, auprès de publics qui ne sont pas, j'allais dire, câblés pour travailler la terre historiquement. Donc, il faut les accompagner. Vous voyez que vous aurez sans doute plus de réussite sur l'installation en maraîchage qu'en élevage, parce que la société a beaucoup évolué. On est une société des loisirs et du temps libre. Et il n'y a plus forcément beaucoup de volontaires pour travailler 60 ou 70 heures par semaine. Moi, j'intervenais il y a quelque temps en Bretagne, et un agriculteur, à la fin de la conférence, était venu me voir. On parlait de tout ça, de la place des loisirs. Et il me disait « Mais moi, ça me parle, ce que vous me dites, parce que le vendredi après-midi, quand je laboure mon champ, tous mes voisins, ils tondent leur pelouse. » Sous-entendu, je suis le dernier à bosser le vendredi, en fait. Hein. Et donc, comment on arrive, même si ces métiers... Alors, c'est un atout. On voit beaucoup cette question du sens qui remonte. Aujourd'hui, on veut un métier qui ait du sens. On en a marre d'être col blanc, d'être comme nous à l'IFOP, de faire du PowerPoint toute la journée. On fait un vrai boulot. Donc, il y a des gens qui sont boulangers, qui sont cavistes. Mais un vrai boulot qui nous laisse quand même un peu de temps. Et donc, il faut trouver des modèles qui permettent à ces gens qui ne sont pas issus du milieu agricole de se réaliser, de gagner quand même à peu près correctement leur vie, et de nourrir leur population. Ce que je disais, c'est pas tellement aujourd'hui le bio, hein, vous voyez que le marché du bio se tasse beaucoup, qui a le vent en poupe, c'est plus le circuit court, ou le produit des régions. Et donc, il y a la question des marchés paysans, etc. etc. Et donc, on n'est pas forcément dans la course aux gigantiques.
De plus en plus de ventes directes, là aussi.
De la vente directe.
La consommation, c'est un bon indicateur, finalement, oui, pour voir les évolutions de
sociétés. On voit toutes ces sociétés. Et bien accompagner vos néos en leur disant, attention, voilà. Et peut-être dernier point aussi, Fourastier insistait beaucoup dans ses travaux sur le rôle de l'eau. L'accès à l'eau, pas d'eau courante, on allait à la fontaine, etc. etc. Et donc, perfidement, on est allé regarder sur Google Maps votre belle commune, et on compte quand même un paquet de piscines aujourd'hui. Et donc, vous voyez que voilà, l'accès à l'eau a quand même beaucoup évolué aussi.
Et les usages aussi.
Voilà.
Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Merci infiniment. Et ce qui est formidable avec les métamorphoses et le changement, eh bien, que ça ne s'arrête jamais. Et justement, il sera intéressant de voir ce qui sort de tout ça. Mais comme on vient de le voir dans la dernière intervention, la nécessité aussi de politiques publiques, de politiques locales qui accompagnent ce changement, qui l'orientent.